Bonjour à toutes et à tous, c'est le dernier temps de ce chantier thématique autour de la voiture. Inscrire la voiture dans une chaîne de déplacement entre vélo, marche, transport en commun, partager les véhicules avec des inconnus ou des voisins, lundi nous sondions les évolutions de pratiques et de culture autour du véhicule. Mardi, au cœur de l'industrie auto, battait le design et l'énergie, mais nous découvrions aussi une voiture affranchie de cette industrie, au châssis open source et aux parois de voile marine. Mercredi, tout allait très vite sur les circuits de Gran Turismo et Horizon 3, toujours plus de réalisation pour ces jeux vidéo où l'exploration des paysages prend presque plus de place que le reste. Et hier jeudi, c'est la musique qui prenait toute la place dans l'habitacle et dans l'existence. Vous pouvez réécouter tout ça sans dépasser les vitesses autorisées sur franceculture.fr. Il est 14h, c'est vendredi, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Et la rubrique 5 fois en fin d'émission demande à quelqu'un de nous raconter 5 histoires en lien avec le chantier thématique de la semaine. En fait, de 5 histoires de voitures, Christiane Peugeot en a plutôt raconté 10, 11, 12, tant ses souvenirs vignettes s'emboîtaient les uns aux autres au micro d'Alice Ramon.
Je me suis mis sur le capot et le gars, il a appuyé toutes ses forces. D'accord, ça ne faisait pas plus que du 35, mais 35, dans une descente, je me suis fait virer, je me suis retrouvé les 4 pattes en l'air.
Aujourd'hui, elle raconte comment elle se retrouve donc les 4 pattes en l'air, adolescente, après un mini accident en mini Bugatti vers 14h50. C'est le 5e et le dernier temps de ce chantier thématique autour de la voiture. Comme chaque vendredi, nous faisons défiler les images dans le poste. En 5 extraits de films, quelqu'un s'empare de notre thème et le décline selon sa sensibilité cinématographique. Samuel Baudin, c'est à vous qu'on a confié ce choix, cette carte blanche. Dans quelques jours sortira la web-série Tank avec un petit côté frère Cohen. Quelque part dans le désert, un sac à dos attend un fugitif. À l'intérieur, un Kit Kat et ça repart, des baskets lumineuses, des affaires propres, de quoi scier le métal de ses menottes et un peu plus loin, une voiture qui ne démarre pas. Il en trouvera une autre, ce fugitif, pleine de drogue cette fois-ci, pour reprendre la route, sa route étant divisée en épisodes de 10 minutes. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Quand je dis quelques jours, c'est quand exactement la sortie de cette web-série ?
Eh bien, je ne sais pas.
Ah.
Voilà, comme ça je vais pouvoir vous aider, je sais que c'est avant l'hiver. Et c'est tout ce que je sais.
Très bien. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on saura cet après-midi.
Désolé.
Vous avez quoi comme relation, avant de passer à la relation cinématographique, mais peut-être une relation tout court avec la voiture ?
Ah, j'ai eu une AX très longtemps, pendant presque... Je l'ai achetée à mes 19 ans, elle m'a accompagné jusqu'à mes 28 ans. Et il y a un an presque, enfin ouais, presque jour pour jour, on l'a concassée, on en a fait un petit cube et ça m'a fait mal au cœur.
Comment vous l'avez concassé, votre AX de la jeunesse ?
Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pas assez de bras pour ça, mais on l'a mise à la casse, elle passait plus le contrôle technique. Mon père s'est acharné dessus pendant toutes ces années, mais là, elle était au bout. C'est peut-être la fin de quelque chose.
C'est la fin de quoi, vous diriez, quand on a une petite voiture, alors AX ou autre chose, hein, à 19 ans, donc j'imagine pas très longtemps après votre permis de conduire. C'est la fin de quel genre d'époque pour vous ?
Ça symbolisait un petit peu le fait que je pouvais aller un peu n'importe où, mais à limite de voiture. Et je trouvais ça très excitant. C'est comme si ça me donnait un cadre qu'il fallait absolument que j'explore. Et je l'ai exploré le plus loin que je pouvais. Alors maintenant, on peut prendre l'avion, on peut prendre tout ça, mais c'est presque comme si on se téléportait, c'est plus facile. Cette petite voiture, je décidais d'aller là-bas. Et je le faisais tout seul ou quelqu'un m'emmenait. Et maintenant, je peux aller un peu n'importe où, mais bizarrement, quand on enlève le cadre, c'est moins rigolo.
Ce cadre-là, vous l'avez exploré, vous dites, jusqu'au bout, c'est-à-dire la petite AX vous a amené dans quel coin et jusqu'où et à quelle allure ?
Alors l'allure, c'était pas un problème, ça allait pas vite. Je crois que je suis allé au bout de l'Espagne en disant à mes parents que j'allais juste dans le Pays Basque, voilà, pour aller voir une fille, mais ça faut pas le dire. Et j'ai eu de la chance pas de tomber en panne en revenant, sinon on m'aurait coupé la tête. Mais dans ce sens-là, jusque là-bas, et puis elle a fait un petit tour en Angleterre, elle a pris le bateau et tout. L'Italie, tout ça, et puis la France, toup, toup, toup.
Hier, on disait, avec un autre projet d'ailleurs pour Arte Créative, aussi une sorte de web-série, mais documentaire cette fois, que les voitures étaient des formes de portraits roulants aussi, en l'occurrence là de musiciens américains dont les deux scénaristes et réalisateurs faisaient le portrait. Est-ce que vous avez l'impression que cette AX-là, qui vous a suivi presque 10 ans, était un petit bout du portrait roulant de ce que vous êtes ?
Ah, j'en suis un peu sûr, ouais.
Il y avait quoi dedans qui pouvait vous refléter?
J'avais demandé aux gens qui montaient dedans tout le temps de laisser un petit bout de truc et de le coller avec de la pâte à fixe, donc elle ressemblait à pas grand chose. Il y avait une énorme bouteille Ricard autocollante sur le plafond. Et puis j'ai grandi, puis je les ai laissés parce que c'était un peu le visage qu'elle avait. Elle perdait son pot d'échappement, ça peut me ressembler aussi un petit peu. Mais je crois que c'est surtout sur le fait que de pas vouloir la changer ou de la moderniser ou de se dire si j'en change un bout, elle, c'est plus elle que j'ai rencontrée dès le début. Donc ouais, elle m'a ressemblé, puis elle s'est fatiguée quand je suis parti.
Il y a beaucoup de voitures, en tout cas dans le peu d'épisodes que j'ai vu pour l'instant de la mini-série Tank. Vous êtes co-scénariste et réalisateur. Lorsque vous arrivez, le scénario est donc déjà un peu écrit. Ça veut dire que vous ne faites pas le choix de mettre autant de voitures au centre du scénario. Pour autant, c'était un choix qui vous paraissait pertinent, intéressant, enthousiasmant?
Alors, c'est curieux, moi je suis arrivé donc sur le projet, il était déjà construit et très avancé, donc ça a été un peu périlleux de le reprendre. Il avait un niveau de fiction très sérieux qui ne me convenait pas très, avec des Porsche Cayenne, ça parlait beaucoup de drogue, donc une vision très, ouais, un niveau de fiction très, très près de la réalité. Et il y avait plus de voitures que ça, parce qu'il y avait énormément de poursuites. Et moi, c'est pas ça qui m'intéressait, c'est que je préfère presque les gens qui parlent dans les voitures que les voitures comme elles s'expriment, surtout avec les moyens que j'avais. J'avais pas les moyens d'être assez pertinent en action. Donc j'ai enlevé beaucoup de scènes extérieures de voitures pour mettre des scènes intérieures de voitures avec des gens qui parlent dedans.
Et dialoguer beaucoup du coup.
Exactement. Et ce qui m'a permis aussi de leur donner une personnalité à ces voitures et en faire des personnages. Donc de voitures standards qui se ressemblent, on en a fait de voitures très différentes, presque sorties d'un dessin animé. Ça m'intéressait. Donc elles sont plus à l'image, elles bougent, on les voit moins bouger vite.
Et d'ailleurs, elles sont tellement deux personnages que, par exemple, dans le petit extrait qu'on va entendre, on passe, grâce au montage, d'un intérieur de voiture à un autre intérieur de voiture, comme si c'était vraiment vos décors roulants, d'une certaine manière.
Oui, et ce qui est intéressant, comme on est pour la plus grande part de la série dans le désert, c'est qu'elles deviennent le seul décor. Comme si un personnage est dans le désert, c'est son costume qui devient le décor, parce qu'autour, il n'y a rien. Donc, ces voitures, c'était notre seul décor. Et tout le début est construit autour d'elle. S'il y a un piège, c'est autour de cette voiture. S'il faut aller à un endroit, il faut la prendre. Comme si on était sur un grand tapis roulant et qu'on ne voyait que la voiture.
Toutes les deux heures,
Karl. Faut pas sous-estimer la fatigue.
Et puis en plus, comme ça, tu peux tirer sur ta tige tranquille.
On peut mettre de la musique?
Non.
Huile de camphre et jasmin. Ben, c'est normal, hein, c'est un palliatif. Par définition, c'est dégueu. C'est comme la tourtelle. Non, 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 arrête avec ça. Plus jamais je tirerai sur ces merdes.
Oh, tu veux pas me détacher?
Non.
Et s'il doit faire un arrêt d'urgence?
Il n'y aura pas d'arrêt d'urgence.
Et s'il y a une vache qui traverse la
route? Il n'y a pas de vache dans le désert.
Et si c'est un coyote?
Écoute, je te détacherai pas. Tu vas tenter une enculade, Sneaky Brown.
Alors faux. Si j'ai survécu jusqu'ici, c'est que j'ai toujours su qu'on déconner, qu'on filait droit.
Et vu la gueule de ton mec, on va filer droit.
C'est pas mon mec.
Ah non? Mais il y a quelqu'un qui t'attend à la...
Ah la pute! Donne sa mère!
Pose-moi ce genre de questions pour voir.
Samuel Baudin, c'est un extrait de Tank, cette web-série. Vous le disiez à l'instant, le fait précisément d'enlever des plans extérieurs de la voiture et donc j'imagine de gommer quelques courses-poursuites, dérapages et autres plans larges. Vous resserrez ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle, donc vous travaillez beaucoup les dialogues. C'est quelque chose qui, lorsque vous avez reçu le scénario à l'endroit où il en était, a demandé un travail important. Et dans quel sens vous l'avez fait?
Il a demandé un travail important, oui. On a même eu peur parce que comme je voulais changer le ton de ce qui était là, ça passe en effet sur les dialogues et c'est quelque chose moi qui me passionne assez. J'ai travaillé beaucoup avec le scénariste qui était déjà là pour pas kidnapper le scénario. Donc on a travaillé beaucoup tous les deux et je lui ai beaucoup donné en lui disant voilà où je veux aller, aide-moi. Et ce qu'il a fait grandement. Tristan,
vous lui donniez quoi comme direction? Voilà où je veux aller, c'était où?
C'était plus dans le ton et dans le presque dans ce que pensent les personnages. C'est-à-dire, au lieu de dire qu'un personnage veut ça et que son seul souci soit, par exemple, un souci de drogue et tout, je lui disais tout le temps son rapport à la personne d'à côté. Non, de savoir si elle est avec quelqu'un ou pas, par exemple, c'est plus intéressant de savoir si elle peut décrocher les menottes, parce qu'elle ne les décrochera pas de toute façon. Donc ça a été à chaque fois ces choses-là. C'est ça que je veux qu'on ressente. Et ça fixe, en fait, le ton et le niveau de fiction d'un dialogue. Et c'est ces questions-là, moi, qui m'intéressent beaucoup là-dedans.
En lui donnant des références dialoguées, justement, en l'emmenant sur des terrains de cinéma que vous privilégiez.
Ouais, parce qu'on est tous des grands enfants et on en a vu beaucoup et on a une passion pour tous ces films ou ces bandes dessinées ou ces livres qu'on a lus. Et oui, c'était plus facile foncièrement en se donnant des exemples. Vous avez cité les frères Cohen, mais Arizona Junior, ça a été une de mes références principales pour ce projet.
Et en livre et en BD, puisque vous citez ça aussi.
Alors en livre, ce qui est intéressant, c'est que j'essaye toujours d'aller un petit peu à l'opposé. Là, je lisais La guerre et la paix, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais sur les objectifs des personnages et comment ils changent d'un bout à l'autre, c'est tellement passionnant que je pouvais pas m'empêcher d'aller en prendre du bout des doigts. J'étais pas en bande dessinée à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ça va me revenir, je vais pas vous embêter.
Oui. Est-ce que les extraits de films sur le thème de la voiture pour cette carte blanche vous sont arrivés facilement?
Alors, il y en a plein qui sont arrivés. Puis après, je me suis dit, oups, je suis à la radio, comment je fais? Parce que ce qui est intéressant avec les voitures quand même, et que j'adore ça, c'est qu'elles sont un véhicule graphique hyper intéressant. Il y a des scènes de poursuite incroyables. C'est elles qui me sont venues les premières. Que ça soit... je vais perdre mes mots, c'est pas le bon endroit à la radio. Que ça soit French Connection. French Connection et Bullitt. Je me suis dit, il faut que je mette ces deux scènes. Et finalement, je les ai revues, je les ai écoutées et je me suis dit, mais non, ça ne m'emmène nulle part. Donc après, j'ai pris la chose autrement. C'est sans chercher des scènes qui parlent de voiture, ça ne m'inquiétait pas. C'est où est-ce qu'on sent que les personnages, par exemple, ne se regardent pas? C'est intéressant dans une voiture, cinématographiquement. On regarde tous dans la même direction. Alors soit on se regarde par le rétroviseur, sinon il faut qu'on tourne la tête et tout ça. Et c'est ces petites choses-là qui m'ont parlé. Et après aussi, la place presque mythologique qu'est la voiture dans une histoire, par exemple. On va parler de Crash ou quoi, mais donc j'ai fait un peu le tri, mais bizarrement, il y en a certaines qui se sont posées là tout de suite.
Bon, on commence par Crash.
Colin Seagrave. He will drive our replica of James Dean's car.
How you doing, sweetness? You up for this?
You been?
I myself shall play the role of James Dean's racing mechanic, Rolf Wudrich, sent over from the Porsche factory in Zuffenhausen, Germany. Now, this mechanic was himself fated to die in a car crash in Germany 26 years later. The third, and in some ways, most important player, the college student, Donald Turnip Seed, played by movie stuntman Brett Trask. Brett Trask.
Turnipseed rentrait chez lui, à Fresno, pour aller y passer le week-end. James Dean était en route pour aller disputer une course à Salinas. Salinas est une ville poussiéreuse au nord de la Californie. Leur rencontre n'allait durer qu'un seul instant. Mais c'est ce moment-là qui le fit entrer dans la légende. Vous constaterez que nous ne portons pas de casque, aucun rembourrage d'aucune sorte. Aucun arceau de sécurité et aucune ceinture dans nos voitures. Oui, notre existence est entre les mains expertes de nos talentueux pilotes. Ainsi, nous vous offrons la plus extrême authenticité. Allons-y. On est prêt. L'accident mortel de James Dean. Go.
est clair d'un point de vue sonore, puisque c'était votre souci. Et Samuel Bodin, c'est le premier choix de cette carte blanche cinématographique. Crash Cronenberg, c'est un film qui est sorti en 1996. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on comprend vaguement qu'il est question quoi, d'une sorte de reconstitution de l'accident de voiture mortel de James Dean.
C'est ça, c'est curieux de commencer par celui-là, parce que c'est vraiment l'endroit où je trouve que la voiture est traitée plus comme un monstre ou un vice dans, chez Cronenberg. De toute façon, tout ce qui est physique, tout ce qui est mouvement, bruit et tout ça, c'est toujours très très présent. Et c'est ça, c'est des gens qui se réunissent en cachette pour reconstituer sans protection les accidents mortels de l'histoire de l'Amérique. En gros, c'est ce qu'on comprend, parce qu'on arrive sur une représentation. Et donc, ces gens-là s'amusent à se rentrer dedans à la bonne vitesse, dans le bon angle, et pour subir la même douleur et le même danger que les gens qui en sont morts, d'ailleurs.
Et donc, rentrer physiquement dans le mythe, hein, puisque vous disiez aussi que ce qui vous était arrivé, c'était, en termes d'idées pour cette carte blanche, c'était aussi travailler la manière dont la voiture trimballe aussi de l'histoire, de la mythologie. Ici, avec James Dean, que ce soit du point de vue cinématographique ou du point de vue de la biographie, on est vraiment en plein là-dedans.
Exactement, et ça va même un petit peu plus loin, c'est que dans Crash surtout, et c'est un des thèmes du film, bien que c'est dur de les définir, c'est ça qui est excitant d'ailleurs, de les définir clairement, c'est qu'elle devient charnelle, c'est-à-dire, et c'est dans la précision, dans la sensation, dans l'histoire, dans le mythe qu'il y a, et dans la douleur qu'elle produit, parce que ces gens-là, il y a un certain sadomasochisme puissant, ces gens-là recherchent la douleur, les blessures et les stigmates que l'acier laisse dans les accidents de voiture. Donc Cronenberg va au-delà du mythe, au-delà de l'histoire, au-delà du cinéma, va jusqu'à qu'est-ce que ça fait quand ça te rentre dans la chair, et nous on aime mettre en représentation ça, ce qu'il fait un petit peu lui dans ses films, bizarrement.
Avec une fascination pour cette douleur-là, et une fascination pour le fait que ce soit la machine qui la provoque.
Exactement, et avec tout ce qu'il y a de, et ce qui est très présent dans le film, de sexuel et de charnel, ouais, dedans. Mais oui, il y a vraiment un rapport aussi avec le désir qui est troublant. C'est pas un film que j'ai vu beaucoup de fois, et c'est un film qui me hante.
Ah oui.
Ah ouais.
Tell him you won't tailgate.
Ever!
I won't ever.
Do you know how many fucking car lengths it takes to stop a car at 35 miles an hour? Six fucking car lengths!
That's 106 fucking feet, mister!
If I had to stop suddenly, you would have hit me!
Je veux que tu t'achètes un putain de manuel de conduite. Et je veux que tu l'apprennes par cœur, cette saloperie. Et je veux que tu respectes ces saloperies de règles. 50 000 personnes, putain de merde, ont été tuées sur la route l'an dernier à cause de putain d'enfoirés dans ton genre. Dis-moi que tu vas acheter le manuel.
Je vais acheter le manuel.
T'as tiré.
Funny how secrets travel on. I start to believe. If I were to bleed, pink sky, the man chains his hands held high. Cruise me, Lord, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return, no return. I'm
écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Samuel Baudin, un extrait de I'm Deranged de David Bowie, extrait de la bande originale de Lost Highway, David Lynch. On entendait juste avant une superposition de la version anglaise dans un premier temps et de la version en langue française dans un second temps, dans une scène assez hilarante. Est-ce que vous essayez de la décrire pour nous ?
Oui, c'est Dick Lawrence, c'est ça son nom, le personnage.
En tout cas, l'un des personnages.
Ouais, un des personnages qui conduit une voiture bien calmement avec son garagiste et qui finit par se faire serrer un peu trop près par un pauvre bonhomme derrière qui le double un petit peu de manière malpolie. Et notre personnage va finir par le poursuivre, le terroriser, lui rentrer dedans, le sortir de sa voiture et lui expliquer qu'il ne faut pas coller les gens comme ça parce que quand on roule à 50 miles à l'heure, il faut tant de longueurs de voiture pour s'arrêter et qu'il a intérêt d'apprendre
le
code de la route. Ouais.
Oui. Et alors cette référence justement au code de la route et aussi à tout le langage de prévention, de sécurité routière, c'est quelque chose dont vous jouez. En tout cas aussi j'ai eu la sensation dans Tank, avec cette idée justement de la conduite, de la bonne conduite avec une forme de dérision, comme si vous étiez aussi beaucoup amusés tous les deux à rescénariser justement ces dialogues.
Bah, la sécurité en voiture, on ne parle que ça et on a raison, c'est... Moi, j'ai très peur des voitures. C'est quelque chose qui me... Enfin, je trouve que c'est un engin de mort incroyable. Et forcément, quand on raconte des histoires, tous les engins de mort deviennent des outils dramatiques plutôt intéressants. Et donc, la chose qu'on entend le plus dans la vie sur les voitures, on a raison, c'est l'histoire de la sécurité. Et bizarrement, la route, c'est le lieu de tous les excès. Et de prendre des personnages absolus et de leur faire nous expliquer ce que c'est que de conduire prudemment, c'est toujours quelque chose qui m'a amusé. Là, on en a un exemple qui est flagrant. Et ça devient très burlesque, mais c'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours, souvent. Donc oui, d'insérer ça, dès que quelqu'un est dans une voiture, de toute façon, il est obligé de parler de comment lui conduit, comment les autres conduisent, et regarder comment je conduis. Et ça c'est égocentrique, en fait, de construire.
Et de s'en mêler, c'est en effet quelque chose qui est assez courant. Vous disiez tout à l'heure que le film de Cronenberg était un film qui, à la fois, vous fascinait, que vous n'aviez pas vu longtemps, de nombreuses fois, mais qui vous hantait. Qu'est-ce qu'il en est du film de David Lynch et Lost Highway ?
Moi, je suis amoureux de David, surtout de Lost Highway d'ailleurs. Moi, ce qui me plaisait, on voit là du côté le plus burlesque qu'il peut avoir et à quel point il utilise la violence pour nous amener dans un autre endroit que les autres cinéastes. C'est-à-dire que elle arrive souvent à faire rire alors ce qui nous fait pas rire du tout et quelque chose qu'on n'arrive pas à palper chez Lynch. C'est effrayant et fascinant. La voiture, en fait, c'est plus il travaille presque plus sur les routes, que ça soit Mulholland Drive qui est une allée, même dans Sailor et Lula, je me suis dit à un moment, je vais mettre un extrait de Sailor et Lula, mais c'est qu'un vecteur en fait, il s'échappe, cette voiture elle est pas importante. Là, pour une fois, il en parle vraiment de cette voiture, le héros, enfin la deuxième partie du héros est un garagiste, et bizarrement il s'en moque tout de suite, et c'est pour ça que ça m'a tapé dans l'œil, je fais bah oui, il faut aussi un petit peu prendre du recul et se détendre, et c'est une des fois où il est le plus burlesque. Et c'est pour ça que ça m'a tapé.
Peut-être le plus terre à terre avec cet objet véhicule, en fait.
Oui, à un point que ça devient stupide, quoi. Et que cette personne peut menacer quelqu'un avec un revolver parce qu'il n'a pas pris ses 5 mètres de sécurité.
What you're doing?
They're headed east on 72nd towards the park.
But Wall Street is south!
Man, stop yelling at me. I got a bad headache. And the best way south is not 9th Avenue. It's through the park.
Oh, dear. I told you the park drive is always jammed.
I didn't say park drive. I said through the park.
Merde! On vient de les perdre. Ils ont pris par le parc en direction du sud.
Ready, je les vois, ils sont sur la panoramique.
Dégagez! Dégagez, putain, dégagez!
Attention, 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 attention! Oh, nom de Dieu, c'est pas vrai! Tu fais exprès de leur foncer dessus?
Non, enfin, pas complètement.
On entend un sacré bazar de voitures, de freins, de klaxons. On est en plein dans la ville et ça s'évite. Là, c'est vraiment une course-poursuite. C'est votre troisième choix. Samuel Baudin, de quoi il s'agit ?
C'est Die Hard with a Vengeance, Une journée en enfer en français. Un film de John McTiernan. Je trouvais hyper intéressant. J'ai eu envie de mettre des poursuites plein. Mais celle-là, ce que j'aime chez John McTiernan, c'est qu'il a une mise en scène absolument musicale. Il est le premier à le dire que si presque on ne comprend pas les mots, on doit comprendre le film. Et là, je trouve que c'est flagrant, c'est que les phrases tombent, que ça soit en français ou en anglais, les phrases tombent au bon moment, les bruitages sont musicaux, ça danse, et il a une gestion de l'espace qui est dingue. Et là, je peux parler comme un enfant. En plus, c'est une des poursuites de voiture qui m'a le plus fait rire et le plus excité au cinéma. Elle est très courte et elle est particulière parce que c'est un contre-la-montre.
Et alors, ça donne quoi justement à l'écran? Qu'est-ce qu'on voit dans cette course-poursuite? Parce qu'on entend, il est passé par le parc, on va traverser quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran?
C'est un film très urbain, Die Hard 3. Donc, et c'est le seul moment où on voit un peu de verdure et on le traverse à fond la caisse en roulant sur de l'herbe. Et donc, ça me fait rire. On voit donc ce taxi, c'est un taxi new-yorkais, jaune. Dans un circuit très rangé avec des voitures partout. Et d'un seul coup, il tombe dans un bouchon et il part à fond la caisse dans l'herbe au milieu des gens étalés avec des serviettes et des mimes et des enfants qui courent. Et du coup, ça passe de quelque chose de très stable, très, très linéaire. D'un seul coup, la caméra se met à bouger dans tous les sens et il y a de l'herbe et de la terre qui vole dans tous les sens. Et les seuls moments où se stabilise, c'est sur le héros et la personne qui malmène, qui est sur le siège d'à côté.
Il y a quelque chose qui est d'ailleurs qui est assez jouissif dans la sortie de route. On parlait mercredi de l'avenir du jeu vidéo qui était le jour où le jeu vidéo permettra de juste claquer la porte et descendre du véhicule. Et parce que donc on évoquait certains jeux où on permet de traverser l'Australie à toute vitesse. Et la question c'était quand est-ce que le jeu vidéo nous permettra de juste marcher et sortir du véhicule et le reprendre plus tard. Au cinéma, quand la voiture sort de la route prévue, commence à valdinguer dans l'espace, c'est quelque chose qui a filmé et intéressant et palpitant.
Ouais, et puis c'est très... c'est interdit, donc il y a une vraie joie à ça, surtout dans ces films d'action ou des choses comme ça. Il y a une vraie catharsis en fait à faire ça au cinéma. C'est un des gros exemples, cette scène-là.
Une journée en enfer.
Ouais, une journée en enfer. On parlait de David Lynch tout à l'heure. Bizarrement, David Lynch, c'est les routes qui mènent nulle part, mais ils passent leur temps sur la route ou à côté, ou on finit par la voir et être obsédé par elle. Là, par exemple, chez McTiernan, d'un seul coup, le seul moyen d'aller à un point B dans le temps imparti qui est celui du film, qui n'est pas la réalité, et ben c'est de casser tous ces codes et de passer au milieu des terrasses de café, dans des escaliers, sur de l'herbe. Ouais, c'est braver l'interdit, c'est comme sauter un petit peu dans le vide, on se met en danger, on met en danger les autres, et le cinéma d'action, ça repose beaucoup là-dessus.
Vous dites que ça fait plusieurs fois que vous parlez d'une joie d'enfant à regarder ces films-là. Est-ce que c'est un hasard que pour l'instant, les films qu'on évoquait, soient entre 1995 et 1997, c'est des films que vous rencontrez à ce moment-là ou plus tard?
C'est des films que j'ai rencontrés à ce moment-là, oui. Peut-être plus tard, Crash.
Cronenberg, c'était ouais. Pas plus mal d'ailleurs, non?
Oui, parce que d'ailleurs j'ai encore du mal à l'assimiler, ce qui est intéressant. Mais oui, c'est une joie assez adolescente et c'est aussi le moment où je me suis mis à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Donc les choses sont grandies, sont parties un peu dans tous les sens. Mais la voiture, elle, de toute façon, elle amène quelque chose comme ça. Moi, j'ai aussi vachement pensé à American Graffiti, ces films où les gens sont dans les voitures et se draguent d'une voiture à l'autre et se tournent autour tout le temps. Ça a quand même un rapport à l'adolescence et juste au passage adulte, la première voiture.
À l'émancipation, bien sûr.
Et donc, si avec ça, tout de suite, on en fait des bêtises ou on saute des buildings et avec, il y a juste à voir Fast and Furious aujourd'hui. Mais c'est qu'ils poussent ça jusqu'à la limite, mais pourquoi pas?
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
man, I will never forgive your ass for this shit. This is some fucked up repugnant shit.
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits that he is wrong, that he's immediately forgiven for all wrongdoings? Have you ever heard that?
Get the fuck out of my face with that shit. The motherfucker said that shit never had to pick up any bitty pieces of skull on account of your dumb ass.
I got a threshold, Jules. I got a threshold for the abuse that I will take. Now, I'm a fucking race car, right? And you got me in a red. And I'm just saying that it's fucking dangerous to have a race car in a fucking red. That's all.
Elle explose.
C'est toi qui explose?
Oui, c'est moi qui explose.
Et moi, je suis une bombe atomique et les retombées vont faire mal, Vince. Chaque fois que mes doigts touchent un bout de crâne, c'est 100 000 tonnes de TNT, les super canons de Navarone. Au fait, mais qu'est-ce que je fous à l'arrière, moi? C'est toi, enfoiré, qui devrais ramasser tes saletés. On va changer de place. C'est moi qui lave les vitres et c'est toi qui ramasse les eaux.
Et on a commencé par le fameux Misery de Pupkin pour introduire cet extrait de Pulp Fiction de Tarantino, 1994. C'est le quatrième choix de cette carte blanche ciné sur les voitures. Est-ce que vous pouvez planter le décor et nous dire dans quelle voiture on est et surtout dans quel état elle se trouve?
On est dans la voiture de Jules. Ils viennent de ramener quelqu'un qui s'appelle Marvin, et Jules et Vincent sont deux tueurs à gages. Et sans faire exprès, pendant une conversation un peu animée, Vincent, qui est le deuxième tueur, a fait sauter le crâne du pauvre Marvin à l'arrière de la voiture. Et là, ils sont en train d'essayer de la nettoyer pour pouvoir traverser Los Angeles sans être aperçus.
Parce que il y a plein de sang et de
cervelle. Il y en a partout, des petits morceaux de crâne, comme il dit, des petits morceaux de cervelle, un petit peu dans les joints et tout ça. Donc ils frottent tous les deux.
Alors pourquoi ce choix, Samuel Baudin?
Tarantino, ça s'imposait presque parce que moi, il me parle depuis justement que je suis très jeune et que sa générosité m'éclate absolument. Et que tous ces films, bizarrement même les nouveaux, même ces deux derniers qui sont des westerns, mais la voiture, elle est partout chez lui. C'est l'endroit où on règle les problèmes, c'est avec elle qu'on règle les problèmes, c'est dedans qu'on cache les problèmes, c'est là qu'ils naissent aussi. Et il y avait beaucoup de scènes. J'ai eu du mal à en choisir une. Ce que j'aime avec celle-là, c'est qu'elle, cette voiture, elle est à l'arrêt. Et pour une fois, ils sont l'un en face de l'autre en train de la nettoyer. Ils se regardent. Alors que toutes les conversations, comme on disait, sont toujours tous à regarder dans le même sens.
Parce que happé par la route.
Exactement. Et parce qu'il faut aller au même endroit. Et là, elle est à l'arrêt. Il faut la nettoyer. Et il y a quelque chose. Ils ont un rapport beaucoup plus frontal, en fait. Et ça m'a marqué tout de suite. Je me suis dit, mais oui, il faut les nettoyer. Elles sont témoins de tellement de choses dans les films de Tarantino que les coffres, il y a 1000 coffres chez lui.
Quand vous filmez les voitures dans Tank, pour l'instant, moi, je crois n'en avoir pas vu tellement à l'arrêt. Mais en même temps, j'ai fait très, très peu d'épisodes. Vous avez pris soin de les filmer de temps en temps, vos personnages dans des voitures qui sont arrêtées?
Oui. Oui, ça arrive un petit peu dans la deuxième partie de la saison, parce qu'ils se rapprochent de là où ils doivent aller. Et comme on commence à construire des pièges autour des voitures, comme on commence à régler ses comptes à l'intérieur d'une voiture, les voitures s'arrêtent, les personnages se posent, ouais. Et ça, c'est une grande joie de filmer une voiture arrêtée quelque part.
Parce que quoi, c'est plus statique, ça vous laisse plus de place pour installer le dialogue. Parce que finalement, c'est très hypnotisant, c'est très captant, une voiture qui roule. On est dans le défilement des paysages, d'autant plus quand vous êtes dans un désert aussi beau que celui que vous filmez. Donc le fait d'arrêter la voiture, ça permet d'être davantage dans l'histoire?
Oui, ça permet de donner plus de densité au temps. Parce que exactement, quand ça roule, le temps, il file. Et de figer l'espace. C'est que moi j'adore le western depuis toujours et c'est le moment où les choses s'arrêtent qu'elles deviennent denses et importantes ou que on fait des erreurs donc d'arrêter ces bolides qui foncent d'un seul coup on se dit il est obligé de se passer quelque chose là.
C'est un nœud fictionnel insistant.
Exactement, c'est un nœud et surtout dramaturgique. C'est tout le temps là que les choses se règlent. C'est quand la voiture s'arrête.
What's this?
What?
This car. This stupid car. Where's the Cadillac? The caddy. Where's the caddy?
The what?
The Cadillac we used to have. The Bluesmobile.
I traded it.
Traded the Bluesmobile for this?
No, for a microphone.
A microphone? Okay, I can see that. What the hell is this?
This was a bargain. I picked it up at the Mount Prospect City police auction last spring. It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.
Well, thank you, Al. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car.
Like it?
No, I don't like it.
Car's got a lot of pickup. It's got a cop motor, a 440 cubic inch plant. It's got cop tires, cop suspension, cop shocks. It's a model made before catalytic converters, so it'll run good on regular gas. What do you say? Is it the new Bluesmobile or what?
Fix the cigarette lighter.
Alors vous parliez de pertinence sonore, là elle est assez frappante, d'une part parce qu'il est très musical ce dernier extrait que vous choisissez, Samuel Baudin. Il s'agit d'un extrait des Blues Brothers, un film culte des années 1980. Là encore, est-ce que je peux vous demander de décrire la scène qu'on vient d'écouter ?
Oui, c'est la première scène parlée du film où les frères Blues se retrouvent pour la première fois. Il y en a un qui sort de prison et son frère vient le chercher donc dans une vieille voiture de police qu'il vient d'acheter. Et le frangin dit « Tu viens me chercher donc avec une voiture de police, où est notre vieille voiture ?» Et dans cet extrait, il va juste le convaincre que c'est la nouvelle Blues Brothers mobile qu'on va voir tout le film, quoi.
Et alors, il essaie de le convaincre à base de quoi, justement? Parce que tout cet extrait-là, ah oui, est assez drôle, parce qu'il lui vante finalement la nouvelle Bluesmobile.
Elle se fait descendre, la pauvre voiture de police, toute la première partie du dialogue, et ensuite, il y a un pont qui s'ouvre pour laisser passer un bateau, et pour convaincre son frangin, il décide d'utiliser cette nouvelle voiture pour sauter par-dessus le bateau et par-dessus le pont. Après quoi, le frère est plutôt d'accord pour la garder.
Ouais, il lui demande juste de fixer le cendrier, je crois, ou l'allume-cigare.
L'allume-cigare qui vient de jeter par la fenêtre juste avant, oui.
Est-ce que c'est un choix qui vous est arrivé rapidement, ce Blues Brothers ?
Ouais, presque tout de suite, la fin de Blues Brothers, c'est la plus grande poursuite de voitures de l'histoire du cinéma, pour moi. En tout cas, au nombre de voitures, ça en devient burlesque, à se rouler par terre. Et donc, quand on parle de voitures au cinéma, les Blues Brothers, ça vient très très vite.
Elle ressemble à quoi, cette scène de fin ?
Ils sont en mission pour le Seigneur, ils essayent de sauver une petite paroisse. Donc ils volent beaucoup d'argent, ils se mettent toute l'Amérique à dos, que ce soit les extrémistes, les racistes, l'armée, la police, tout le monde. Et ils doivent déposer cet argent à la banque avant que cela soit trop tard. Ils se retrouvent donc avec toute la police des États-Unis, plus toute l'armée des États-Unis derrière eux. Sauf que leur voiture va un tout petit peu plus vite, ce qui leur permet de garder un tout petit peu de distance. Et ça donne des scènes assez incroyables.
Donc vous dites, vous y avez directement pensé, ça fait partie des références que vous aviez en tête lorsque vous tournez la web-série Tank. Vous avez comme ça des espèces de films flottants avec des voitures dedans, ou quand on réalise un film, on est sur son travail au présent?
Non, moi j'ai tout le temps plein de choses dans la tête, et pas que des films justement, des livres, de la musique aussi beaucoup, et le Blues Brothers c'était là très vite sur Tank. Ce qui est intéressant dans le Blues Brothers, c'est que c'est un film très anarchistes quelque part, et que leur instrument pour répandre le chaos ou la joie de ce chaos autour de nous, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les sorties de route, c'est cette voiture de police. Et donc forcément, quand on dit il faut que tu fasses une série avec deux voitures qui se suivent, pour moi c'est peut-être une des voitures qui a le plus de personnalité au cinéma, la voiture des
Blues. La Bluesmobile.
Ouais,
exactement. Ça a été d'ailleurs, il me semble que dans le premier ou le deuxième épisode, il y a un gros plan sur le nom de cette voiture qui s'appelle Mercury 7, c'est ça ?
C'est ça.
Ça a été important, le choix des véhicules.
Alors ça, c'est vraiment lié à la production. On tournait au Maroc et trouver ces voitures a été un enfer. D'ailleurs, je remercie mon directeur de production, mais qui allait dans les endroits les plus improbables pour la chercher.
Au Maroc ?
Au Maroc. Et donc cette Mercury qui nous a tapé dans l'œil tout de suite, avec laquelle on s'est dit elle va nous tomber en panne au bout de la première journée, ce qui n'a pas été le cas, je la remercie. Elle avait un nez, elle avait un nom avec une lettre en moins, et moi ça m'a assez fasciné. Donc je me dis il faut absolument garder ça, ça lui appartient, et elle va parler avec.
Alors on a quand même envie de savoir où est-ce qu'il a dégoté sa Mercury, ça va ?
C'est son secret, ça.
C'est vrai ?
Ouais. Il m'a emmené là, on a bien rigolé.
Ok.
Ouais. Non, non, c'était des garages. On a fait 3 garages sur une route qui a été des garages à même la route. Les gens réparent les voitures à même la route. Et on nous l'a même déballé d'un drap. C'était assez rigolo et assez joyeux.
Et assez cinématographique, déjà.
Pour le coup.
La voix de Marianne Faithfull pour évoquer avec vous, Samuel Baudin, un film qui n'est pas, qui fait pas du tout partie de vos choix, mais qui faisait presque partie de nos choix de cœur, en tout cas à l'équipe, Thelma et Louise. Et aussi pour évoquer les femmes, puisque dans les quelques extraits que vous avez choisis, il n'y en a pas beaucoup. Il y a dans l'une des courses-poursuites, notamment où la voiture sort de la route toute tracée et qui traverse le parc, elle est là. Mais sinon, peu de femmes au volant. Parce que quoi ? Parce que les femmes conduisent peu au cinéma ?
C'est triste, d'ailleurs, quand Tarantino y a remédié sévèrement. Mais,
ouais.
Oui, c'est triste, d'ailleurs, en y repensant. Même si on recule, surtout dans les années 70, c'est un cauchemar, presque.
Ah, que vous voulez dire que dans le cinéma de manière générale, ou que vous ayez choisi.
Il n'y a pas assez de femmes au volant. Mm. Ah oui, moi dans mes choix. Après, moi je me suis surtout concentré sur la voiture, mais c'est vrai que d'ailleurs Thelma et Louise, ça fait plaisir. Mais même aujourd'hui, on n'a pas assez de femmes au volant. Si dans Fast and Furious.
Dans Fast and Furious et aussi dans cette web série que vous co-scénarisez et que vous réalisez, tant qu'il y a une femme au volant, Zita Enro, et elle a une place très importante.
Ah oui, c'est même la pierre angulaire. Mais ça, c'est quelque chose même à mon petit niveau dans les fictions que j'écris et que je réalise, c'est toujours les femmes qui fait qu'on va dans la bonne direction ou qui arrive à nous rattraper à temps. Je trouve que c'est très important de. Je pense que la personne qui est au volant de la voiture, c'est pas ce qu'il y a de primordial. Presque la personne qui est assise derrière et qui lui parle à l'oreille, elle devient plus importante. Et c'est ce que fait beaucoup Zita d'ailleurs dans Tank.
À qui chuchote-t-elle à l'oreille ?
À Alban Lenoir, en l'occurrence.
Donc on va parler un petit peu peut-être plus profondément de cette série-là. Elle, il se trouve qu'on la rencontre pour la première fois dans la série, à une pompe essence. Elle vient faire le plein et elle est passablement bousculée par le fugitif dont je parlais en introduction, qui la menace de la recouvrir d'essence alors que ce n'est que de l'eau qu'il y a dans son bidon et de l'enflammer. Tout ça pour lui piquer sa voiture. Voiture remplie de drogue. Pourquoi ? Qui est cette Zita Enro dans la fiction ?
Eh ben, Zita Enro dans la fiction qui s'appelle Zoé, et elle est juste en train de faire un transfert de cocaïne, tout simplement, avec un point de vue très dessin animé. C'est-à-dire que la voiture est littéralement pleine de drogue. Si on ouvre le coffre, il n'y a que ça. Si on ouvre une portière, il n'y a que ça. Et donc, elle se fait voler inopinément la voiture par presque un enfant adulte, qui est le personnage d'Alban Lenoir. Et tout son travail à elle va être d'arriver à le rattraper. Et d'arriver à aller plus loin que de le rattraper, de l'emmener lui vers là où elle veut aller, elle.
Mystère et boule de gomme sur la suite.
Oui, un petit mystère, parce que c'est pas là que se pose. C'est plus dans la relation qu'ils vont avoir tous les deux, et donc tout ce que cela crée, et l'arrivée aussi d'une autre fille dans la série qui arrive plus tard, qui se trouve être la fille de 16 ans de cet enfant sur pattes, et c'est là que ça devient un petit peu rigolo.
Vous écoutez France Culture,
Les Nouvelles Vagues,
par Marie Richeux.
La voix de Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah à 14h48 sur France Culture pour lancer le dernier volet de cette rubrique 5 fois. À quel point, lorsque l'on s'appelle Christiane Peugeot, peut-on faire sa vie loin des voitures ? C'est à peu près ce que l'on a sondé depuis lundi avec cette dame de bientôt 90 ans. Alice Ramon l'avait rencontrée vendredi dernier. Il lui avait demandé de partager au moins 5 souvenirs. Finalement, on en a partagé beaucoup plus. C'est le dernier vol des tours.
Bon, alors Bugatti, c'est un constructeur de la voiture. Il a fait beaucoup de voitures de course, Bugatti. C'était un grand constructeur italien. Et Bugatti était venu voir mon grand-père. Il lui avait amené comme cadeau une petite Bugatti, j'ai peut-être cette table, pour ses petits-enfants. Très bien, Monsieur Bugatti est un homme charmant, mon grand-père aussi, ils sont très bien entendus. Et ensuite, mon grand-père a offert la Bugatti à l'aîné de ses fils. Moi, j'allais souvent voir mes cousins, et j'avais quoi à l'époque ? J'avais 13 ans. Et j'ai un de mes cousins qui était un peu plus jeune que moi, il doit avoir 11 ans, des choses comme ça, qui conduisait la Bugatti. Et il m'a dit, tu t'installes sur le capot et on va faire le tour du jardin, là. Je me suis mis sur le capot et le gars, il a appuyé toutes ses forces. D'accord, ça ne faisait pas plus que du 35, mais 35, dans une descente, je me suis fait virer, je me suis retrouvé les quatre pattes en l'air. Bon, enfin, à 13 ans, on est souple, hein. Donc je me suis relevé, ça allait très bien.
C'était le premier accident, en fait.
C'était le premier accident, oui. En toute petite Bugatti, qui était... Enfin, mon cousin, il est mort maintenant aussi, mais je crois que ses enfants l'ont encore, cette petite Bugatti, oui, cette petite Bugatti.
En oui. Voiture à 1000 à l'heure, les yeux fixés sur le compteur, mes cheveux blancs dans la figure, une mèche coincée dans la ceinture, en sens inverse sur l'autoroute, il n'y a rien que je redoute, je bois encore de je conduis qu'avec un bras. Quand je rentre de la discothèque, que j'ai vomi sur la banquette, je fais un bain sur le parking, le vomissement de ma machine.
partir très tranquillement en week-end. La princesse de la voiture en question, c'est Rebecca Warrior qui compose le duo Sexy Sushi. Il se trouve que vous pourrez l'entendre ce soir en DJ set à Paris, à Parking Stone. Vous pourrez aussi l'entendre au festival Les Éclectiques à Chemillé, le 12 novembre, le 3 décembre à Rennes, aux fameuses rencontres transmusicales, et un DJ set, le Bikini, soirée Act Up, ce sera à Toulouse le 9 décembre, puisqu'on est dans les conseils d'écoute. La collègue et amie Julie Gacon sera sur la route de quoi ce samedi soir? Sur la route de la route, avec Yvon Croisier de 18h à 19h. Ils parleront de l'usage de la route, des radars et de la vitesse dans un département de France réputé pour aimer la voiture et qui, ce n'est pas le seul, affiche d'ores et déjà de mauvais chiffres de sécurité routière pour 2016. Donc on parlera encore de voitures et encore de sécurité. Samuel Boudin, on a beaucoup parlé de musique hier. Qu'est-ce que vous écoutez, vous, dans votre voiture lorsque, je sais pas, qu'est-ce que vous écoutiez dans la X pendant, alors peut-être pas pendant les 9 ans où vous l'aviez encore, mais je sais pas, aujourd'hui, maintenant qu'elle est partie?
Oh, il y avait beaucoup de rock'n'roll, je crois. Du rock tout doux au rock très dur. Mais elle a écouté beaucoup de rock, ouais.
Elle a écouté beaucoup de rock. Mm-hmm. Ça a été un lieu aussi d'éducation musicale, cette voiture,
hein? Ouais. Ouais, je pense d'ailleurs à Mathieu Lemeunier qui a mis un nombre de cassettes dans cette voiture et qui m'ont appris plein de choses.
Il y a aussi pas mal de musique dans la web-série Tank que vous co-scénarisez et réalisez. Ça, c'est aussi un travail qui a été important dans la couleur fictionnelle que vous lui avez donnée.
Oui, ça, sur le ton, je crois qu'il n'y a pas d'instrument plus magnifique que la musique. Donc c'est quelque chose à quoi je pense en amont beaucoup. Hein. Vous disiez pas dans la tête, mais il y a beaucoup de musique dans la tête. Donc forcément, avec des budgets comme cela, on est obligé de créer. On peut pas utiliser beaucoup de morceaux existants. Et du coup, c'est quelque chose que je pense avant. Je sais à qui je vais demander, et j'emmène beaucoup de choses à mettre sur le plateau aussi. Et quand je peux, je mets de la musique dans les oreilles des comédiens assez rapidement.
Ouais. Avant de jouer.
Ouais.
Lorsque vous pensez à la musique pour Tank en amont de retravailler par exemple sur le scénario, vous y pensez en quels termes? À quelle ambiance? Avec quel adjectif? Dans quel mot?
Techniquement, j'en mets pour écrire.
Non, je veux dire dans l'atmosphère. Comment vous décrivez quand vous appelez un compositeur pour travailler sur Tank? Qu'est-ce que vous lui racontez?
On travaille en référence, c'est toujours quand même plus simple. Et après, je parle beaucoup de mouvement, en fait. De rythme et de mouvement, mais les dialogues, je les vois un petit peu de la même manière. C'est vraiment, j'ai envie, par exemple, je lui dis, j'ai envie qu'on aille là vite. Et forcément, ça va changer. Je dis, je veux que tu prennes le temps avant d'aller là. Ça peut mettre le même temps, mais lui, musicalement, il va changer. Moi, je suis absolument pas doué en musique. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Du coup, je raconte beaucoup de choses et je fais beaucoup de gestes. Mais c'est tout le temps une histoire de mouvement. Ouais. Et même s'il faut s'inquiéter, même s'il faut, je dis, là, il faut prendre le temps de se s'inquiéter. Là, il faut qu'on évite peur. Et c'est peut-être ces mots-là qu'ils arrivent à interpréter. Ils sont deux, là, sur Tank.
Presque, du coup, vous leur parlez davantage en termes de rythmique qu'en termes de couleur.
Oui, la plupart du temps, oui. Et en référence, quand même, parce que c'est plus simple.
Alexandre et Véronique ont choisi Taxi Driver pour terminer la semaine.
We'll be right back.
Merci beaucoup Samuel Baudin d'avoir été avec nous cet après-midi et d'avoir signé ce choix d'extrait de film sur le thème de la voiture. La mini-série, je dis mini parce que les épisodes sont mini, mais il y en aura quelques-uns. Cette web-série en tout cas est plutôt pensée d'ailleurs pour le téléphone.
Exactement.
Et produite par Studio Plus qui pensera aussi l'application pour pouvoir regarder cette série sur son téléphone portable. Elle s'appelle Tonk. Et on a cité du coup Zita Enroux, on peut peut-être citer les autres comédiens.
Alors il y a Alban Lenoir, Mathieu Lemeunier qui a été cité différemment avant. Et voilà, on a notre trio de têtes.
Trio de têtes, ouais, ce qui est déjà pas mal. Moi je cite les têtes pensantes de cette émission. Merci beaucoup à Romain Dobec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi. Une émission réalisée par Véronique Villa. Aujourd'hui au volant et aux manettes, c'était Alexandre Dong. À la suggestion musicale, il y a toujours quelque part Michael Simon.